Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques mois, nous vous proposons chaque jour de partager avec nous les lettres des pères du désert. Ces premiers pères de l'Église, qui sont le tronc commun entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, puisqu'ils commencent à écrire dès le IVe siècle, donc bien avant le schisme entre Byzance et Rome. Nous avons déjà médité sur l'œuvre d'Antoine le Désert, Macaire, Silouane, Climaque, Séraphime et tant d'autres. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'œuvre de Jean Cassien, qui était un moine scythe et qui vécut au IVe siècle. Nous poursuivons nos rendez-vous avec Saint Jean Cassien et ses conférences. Et commençons aujourd'hui avec la question : les vices sont-ils plus forts que les vertus ? Le nombre des vices passe de haut celui des vertus. Cependant, comme il dérive des huit principaux, ceux-ci, une fois vaincus, ils s'apaisent aussitôt et s'effacent avec eux sans retour. De la gourmandise naissent les excès de table et l'ivresse. De la luxure, les propos déshonnêtes, les bouffonneries, les railleries et les sots discours. De l'avarice, le mensonge, la fraude, le vol, le parjure, l'appétit des honteux profits, les faux témoignages, les violences, l'inhumanité, la rapacité, de la colère, les homicides, les cris et l'indignation, de la tristesse, la rancune, la pusillanimité, l'aigreur, le désespoir, de la paresse, l'oisiveté, la somnolence, l'humeur acariâtre, l'inquiétude, le vagabondage, l'instabilité de l'esprit et du corps, le bavardage, la curiosité, de la vaine gloire, les disputes, les hérésies, la jactance et l'amour des nouveautés, de la superbe, le mépris, l'envie, la désobéissance, le blasphème, le murmure et la détraction. Plus nombreux que les vertus, ces funestes vices sont aussi plus forts, comme nous le sentons par le combat que nous livre la nature elle-même. La délectation des passions charnelles milite dans nos membres avec une toute autre puissance que le goût des vertus. Encore celui-ci ne s'acquiert-il qu'au prix de la plus profonde contrition du cœur et de la parfaite mortification du corps. Si d'autre part, l'on considère des yeux de la foi les légions innombrables d'ennemis que le bienheureux apôtre énumère, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans l'air. » Ou si l'on songe à ce qui est dit du juste au psaume 90, « Il en tombera 1000 à votre côté, 10 000 à votre droite. » On verra bien clairement qu'il nous dépasse singulièrement, en nombre et en puissance. Pauvres êtres de chair et de boue, en face d'ennemis doués d'une essence spirituelle et subtile comme l'air. Chaque vice a son fief dans notre cœur. En se l'arrogeant, il en extermine Israël, c'est-à-dire la contemplation des choses sublimes et saintes. Et il ne cesse de lui faire la guerre. Que la vertu habite avec le vice, cela ne se peut. Quelle société de la justice avec l'iniquité? Quel commerce entre la lumière et les ténèbres? Mais les vices cèdent-ils la victoire au peuple d'Israël, c'est-à-dire aux vertus qui leur sont opposées? La place occupée dans notre cœur par l'esprit de concupiscence et de fornication revient à la chasteté. La patience revendique la place de la colère. À la tristesse qui opère la mort, succède la tristesse salutaire et pleine de vraie joie. Où la paresse exerçait ses ravages, la force relève les ruines. Ce que la superbe foulait aux pieds, l'humilité le met à l'honneur. Ainsi, à tout vice expulsé, succède la vertu contraire, laquelle prend la place de ses mouvements désordonnés. Ces vertus méritent bien le nom d'enfant d'Israël, c'est-à-dire de l'âme qui voit Dieu. D'ailleurs, en expulsant les vices, elles envahissent moins un domaine étranger qu'elles ne recouvrent ce qui leur appartient. Par la volonté divine, ce n'est pas au vice que le domaine de notre cœur a été donné par droit de nature, mais aux vertus. Après la prévarication d'Adam, ces Cananéens insolents les chassent de leur fief, mais rétablis dans leurs droits, par nos soins et nos labeurs, avec la grâce de Dieu, elles rentrent dans leur propriété, plutôt qu'elles ne s'emparent d'un bien étranger.
Die Dai 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 Dai
Poursuivons maintenant avec la tentation. La tentation revêt une double forme, la prospérité et l'adversité. Il faut savoir en outre qu'elle atteint tous les hommes, pour trois raisons différentes. Souvent, elle a pour but de les éprouver, parfois de les purifier, et quelquefois aussi, elle est le châtiment de leurs péchés. Premièrement, c'est une épreuve, la tentation. Ainsi en fut-il pour Abraham, Job et beaucoup de justes qui eurent à soutenir des tribulations sans nombre, comme nous le lisons dans les Écritures. C'est dans le même sens que dans le Deutéronome, il est dit au peuple par le ministère de Moïse, « Tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit durant 40 années à travers le désert, afin de t'affliger et de t'éprouver, afin que fussent découverts les sentiments cachés de ton cœur, et que l'on connût si tu serais fidèle ou non à garder ses commandements. » Telle est aussi la signification de ces paroles du psaume. « Je t'ai éprouvé aux eaux de la contradiction. » Et celles-ci qui sont adressées à Job, « Penses-tu que j'ai parlé pour un autre motif que de faire paraître ta justice ?» La tentation est une purification. Voyant en ces justes certaines fautes légères, ou qu'ils conçoivent quelque élèvement de leur pureté, Dieu les humilie en les livrant à diverses tentations, à dessein d'éliminer dès la vie présente toutes les impuretés, ou pour parler comme le prophète, toutes les scories que son œil découvre dans le secret de leur âme. Car il veut qu'il se présente un jour comme un or pur à l'épreuve de son tribunal, sans que rien subsiste en eux qui offre une proie au feu vengeur du jugement. C'est ce que signifient ces paroles. Nombreuses sont les tribulations des justes. Ou encore, mon fils, ne néglige pas le châtiment dont le Seigneur te corrige, et ne te laisse pas abattre lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. Quel est l'enfant que son père ne châtie? Que si vous échappez au châtiment, où tous participent, c'est donc que vous êtes des bâtards et non des fils. À ces mots de l'Apocalypse, ceux que j'aime, je les reprends et châtie. Ces justes sont encore figurés par Jérusalem, lorsque le prophète Jérémie lui fait tenir par Dieu ce discours. Je ferai une extermination de tous les peuples parmi lesquels je t'ai dispersé, mais pour toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai cependant, selon la justice, afin que tu ne te croies pas innocente. C'est aussi pour cette purification salutaire que prie David. Éprouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi. Faites passer par le feu mes reins et mon cœur. Et dans le sentiment qu'il a de l'utilité de ses épreuves, Isaïe s'écrie « Châtiez-moi, Seigneur, mais que ce soit selon votre justice et non dans votre fureur. » Puis il dit encore « Je vous louerai, Seigneur, car vous vous êtes irrité contre moi, mais votre fureur s'est apaisée et vous m'avez consolé. » Enfin, la tentation est le châtiment du péché comme les plaies que le Seigneur menace d'envoyer au peuple d'Israël. J'enverrai contre eux la dent des bêtes féroces et la fureur des serpents qui rampent sur la terre. Il est dit aussi, c'est en vain que j'ai frappé vos fils. Vous n'en avez retiré aucune instruction. Il dit encore dans les psaumes, nombreux sont les fléaux qui frappent les pécheurs. Et encore dans l'Évangile, voilà que tu es guéri, ne pêche plus à l'avenir, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On peut même découvrir à ces tentations une quatrième raison. Nous voyons par le témoignage des Écritures que plusieurs ont eu à subir quelque mal, à dessein seulement de manifester la gloire de Dieu et ses œuvres, selon cette parole de l'Évangile. Ce n'est point qu'il ait péché, ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu éclatent en lui. Et cet autre encore, cette infirmité ne va point à la mort, mais elle n'est que pour la gloire de Dieu, et afin que le Fils de l'homme en soit glorifié. Saint Jean Cassien s'adresse maintenant à ceux qui ont endurci leur cœur. Il est d'autres sortes de vengeance divine qui frappent sur l'heure ceux qui ont dépassé le comble de la malice humaine. Ainsi furent condamnés Dathan, Abiron et Corée. Et cela, surtout dont l'apôtre dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie et à leur sang se réprouver. Ce qui est bien le plus terrible des châtiments. C'est d'eux, en effet, que le psalmiste déclare. Ils n'ont point de part au labeur des hommes et ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ils ne méritent pas de recevoir du Seigneur les visites qui sauvent ou de voir guérir leurs maux au prix de souffrances qui passent, ceux qui, ayant perdu tout espoir, se sont livrés à la dissolution, ouvriers de toutes les erreurs, plongés dans l'impureté, qui, par l'endurcissement de leur cœur, par l'habitude du mal et le nombre de leurs péchés, défient toute purification d'un temps qui s'enfuit, toute représaille qui se bornerait à la vie présente. La parole de Dieu leur fait, par le ministère du prophète, ce reproche. Je vous ai détruit, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorre, et vous êtes devenus comme un tison arraché de l'incendie. Et même alors, vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Et Jérémie à son tour, j'ai tué et j'ai perdu mon peuple, et néanmoins ils ne sont pas revenus de leur voie. Et à notre endroit, vous les avez frappés, et ils n'en ont pas eu de douleur. Vous les avez foulés aux pieds et ils n'ont pas voulu comprendre la leçon. Ils ont rendu leur face plus dure que le roc et ils ont refusé de revenir. Voyant que tous les remèdes du temps présent ont été vains à les guérir, le prophète désespère en quelque sorte de leur salut et il s'écrie : le soufflet devenu la proie du feu. En vain, le fondeur a fait son ouvrage. Vos vices n'ont pas été consumés. Appelez-les un argent de rebut parce que le Seigneur les a rejetés. Écoutez encore le Seigneur se plaindre d'avoir inutilement appliqué cette purification du feu aux pécheurs endurcis dans le crime. Ils sont figurés par Jérusalem profondément pénétrés par la rouille. Mettez la vide sur des charbons ardents, dit le Seigneur, afin qu'elle s'échauffe, que l'airain se liquéfie et que sa souillure se fonde au-dedans. On s'est efforcé avec grande peine et la rouille ne s'en est point allée, pas même à l'action du feu. Ton impureté est exécrable, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas séparé de tes souillures. Comme eût fait un habile médecin, il a épuisé tous les traitements. Il ne voit plus de remède qu'il se puisse approprier à leur mal. Et voici que, vaincu, pour ainsi dire, par la grandeur de leurs iniquités, il est comme contraint de renoncer au châtiment que lui inspirait sa clémence. Il les en avertit. C'est fini. Je ne mériterai plus contre toi. Et ma jalousie s'est retirée de toi. Tout autre est son langage avec ceux que l'abondance de leurs péchés n'a point endurci, qui n'ont pas besoin de ce traitement rigoureux, et si je puis ainsi parler, de ce cautère de feu, mais que la réprimande verbale suffit à guérir. Je les corrigerai, dit-il, par des paroles qui les affligeront. L'âme du juste ne doit point ressembler à la cire ni à quelque autre substance molle. Celle-ci cède toujours au sceau qu'on lui impose, elle prend sa forme et son empreinte et les garde jusqu'à ce que l'application d'un cachet nouveau lui donne aussi une forme nouvelle. Si bien qu'elle ne persiste jamais dans sa manière d'être propre, mais épouse incessamment, par des changements continuels, la figure des objets qu'on lui imprime. Bien plutôt, doit-elle être comme un cachet de diamants, en sorte que, gardant inviolablement sa physionomie propre, elle marque et transforme les divers événements de sa vie à l'empreinte de ce qu'elle est, sans pouvoir en subir elle-même l'impression. Notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons avec saint Jean Cassien. Il nous parlera, cette fois-ci, de ce qui se passe dans le cœur de l'homme lorsqu'il tombe dans le péché.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.